19h-20h. Les informés.
Je souhaite que chacun se reprenne.
Avec Adil Farkan.
Je vous demande de vous arrêter.
Sur Beurre FM.
Bonjour, vous le savez, ces petites notes, ces petites capsules, eh bien c'est la créa de Giovanni. Bonsoir à tous, comme chaque jour de la semaine, nous sommes ensemble ici, vous le savez, sur Beurre FM. Les informés, je vous le rappelle, commenter, analyser et décrypter l'actualité. Et ce soir, au menu, ce que je vous propose, d'abord nous allons recevoir comme invité, eh bien ce soir à l'honneur, ces banlieusards. Ils ont décidé de s'emparer de la chose politique, mais surtout, banlieusards attitude, ont décidé de prendre les choses en main. C'est-à-dire que la politique, c'est aussi les quartiers populaires, c'est aussi notre jeunesse, et un rendez-vous à ne pas manquer, ça se passe le 26 mars, on va tout vous dire. Ils sont sur le plateau avec nous. Check, qui est le représentant de banlieusards attitude, et Nissa. Ensuite, après, les débatteurs influenceurs qui sont avec nous, le face-à-face, Mohamed Benjebourg face à Jean-Pierre Colombiès. On reviendra sur la guerre en Ukraine, avec Zelensky qui demande une aide militaire sans restriction à l'OTAN. Est-ce possible tout cela? Nous reviendrons aussi sur cette présidentielle concernant Valérie Pécresse. Parce que les poids lourds, les cadres, chers amis, eh bien, j'ai l'impression qu'ils veulent se débarrasser de Valérie Pécresse. Clochette, mais non. Oh. Oh. Comment peut-on dire ça? Valérie Pécresse, que se passe-t-il? Bon, on en reparlera tout à l'heure. Tiens, c'est le retour de François Hollande. Double clochette. Non mais attends, après avoir détruit le Parti Socialiste, il veut reconstruire le Parti Socialiste? Non. Bon, on va s'intéresser à tout ça, on va décrypter ce qui se passe dans la tête de François Hollande. Parce que paraît-il qu'il veut prendre sa part et qu'il veut reconstruire le Parti Socialiste. Mais il est mort, le Parti Socialiste, les amis. Non, je sais, vous allez me tomber dessus. Tranquillement, je vous vois arriver. D'accord? On est là pour discuter. Tranquille. 19h02. C'est parti, les informés, c'est tout de suite. C'est maintenant toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview. L'interview.
Ah oui, bah écoutez, il faut y aller, hein, Tchèque. Je vous vois rire, mais c'est vrai, non?
Faut y aller.
Faut mettre les pieds dans le plat.
Exactement.
Allez, honneur aux femmes. Nissa, bonjour. Nissa, bonsoir. Banlieusards attitude. Bonsoir. Est incarnée par deux personnalités ce soir qu'on a le plaisir de recevoir. Comment ça va, Nissa?
Ça va très bien et merci de nous recevoir.
C'est normal.
Merci de toujours nous recevoir, d'ailleurs.
C'est notre rôle. C'est notre rôle à vos côtés ou en face de vous. C'est Cheikh qui est aussi le représentant de banlieusards attitude. Bonsoir, Cheikh.
Bonsoir, bonsoir à toutes.
Tirez le micro devant vous, soyez
bonsoir,
pas timide. Hein. Ça va?
Bonsoir.
Voilà, il a droit à sa première clochette.
Ça va, très bien.
Alors, vous êtes là parce que vous allez nous parler de banlieusards attitude, parce que vous faites beaucoup parler de vous en ce moment. Il y a un événement, évidemment, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est banlieusards attitude qui se déroule le 26 mars. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe le 26 mars? Parce que on est en pleine campagne présidentielle. Vous considérez, je vous pose la question, que les quartiers populaires sont exclus, sont en marge de cette campagne présidentielle, Nissa?
Exactement. C'est qu'aujourd'hui, tous les débats politiques se font sur les plateaux télévisés. Et les habitants des banlieues, ce n'est pas invité. Et pourtant, on parle vraiment en majorité des banlieues. Et ce sont des personnes.
Qu'est-ce qu'il faut dire, des banlieues ou des quartiers populaires?
Bah, c'est pareil, puisque les quartiers sont dans les banlieues. Ensuite, c'est vrai qu'on a aussi des quartiers, des cités à Paris aussi. Mais en l'occurrence, là, sur les plateaux télé, on parle des habitants des quartiers populaires, des cités. Et les personnes qui parlent de ces habitants, enfin de nous, ils ne connaissent pas les réalités des banlieues. Ils ne connaissent pas nos réalités. Mais ils sont là, ils parlent pour nous.
Quand vous dites qu'ils ne connaissent pas les réalités, c'est quoi? Ils sont complètement déconnectés?
Exactement, ils ne vivent pas en banlieue.
Vous pensez vraiment?
J'en suis certaine.
C'est qui? Tous les candidats? Tous?
Pour la plupart.
Pour la plupart.
Pour la plupart, ils ne connaissent pas les réalités des banlieues. Et même ceux qui parlent et qui défendent aujourd'hui la banlieue, ils la défendent même très bien. Mais ils ne vivent pas en banlieue.
Est-ce que je peux vous dire?
Personne ne peut savoir.
Je vous pose la question à vous deux. Est-ce que je peux considérer, on peut dire par exemple, les candidats ne tiennent pas compte, vous l'avez dit vous-même, ils ne tiennent pas compte des quartiers populaires parce que les quartiers populaires n'ont pas la culture du vote. Vous répondez quoi? Cheikh.
Je dirais pas la culture du vote. C'est que déjà, ces candidats-là n'ont pas inculqué aux jeunes de banlieue d'aller ce que c'est le vote. C'est pour ça que nous, le 26, on a le mouvement du droit civique qui sera avec nous pour présenter aux jeunes de banlieue ce que c'est le vote. Quelle est l'importance du vote ? Vous voyez ? Et derrière, si on n'a pas eu, si évidemment on n'a pas eu cette éducation pour de faire comprendre aux jeunes d'aller voter, évidemment ils vont pas y aller voter. Ils s'en foutent.
Mais pourquoi les quartiers populaires ont tendance à bouder le devoir civique ? C'est-à-dire que, je vous l'apprends pas à chacune des élections, quelle que soit l'élection présidentielle, législative, municipale, les quartiers populaires ont du mal à croire un peu, n'y croient pas du tout. Voilà, tout simplement, je vous pose clairement la question. Pour quelle raison ? Est-ce qu'on a des explications ?
Ils n'y croient pas du tout. Exactement. Nous, on est en train de travailler sur le sujet. C'est pour ça qu'on a le 26 mars. Ça va nous permettre d'échanger avec les représentants politiques et qui nous donnent vraiment la vision de comment ils voyaient la banlieue. Autrement dit, dans les quartiers, il y a des super talents et faut aller les chercher, ces gens-là. Mais ils nous ont tellement, en fait, menti dans leur programme politique qu'aujourd'hui, nous, c'est pour ça qu'on est parti se dire qu'on va créer la banlieue Zara Attitude. Toutes les banlieues, l'idée, l'objectif final, c'est de faire une banlieue dans toute la France. Et si demain, il faut...
C'est une même banlieue qui parle au nom de tous les quartiers populaires.
Évidemment, dans quelques mois, dans quelques années, c'est ça l'objectif final. C'est qu'on travaille tous ensemble, main dans la main. Et parce que dans les banlieues, il y a énormément de talents, il y a énormément de capacités. Et quand on va pouvoir détecter ces différentes compétences transverses que les jeunes de quartier ont, là, on pourra y aller sur le terrain politique et à la fois le local et peut-être, en 2032, prendre le national. Et pourquoi pas ?
J'ai vu que Banlieue Zara Attitude, c'est des orientations, des tribunes sur la sécurité pour nos quartiers, contre la stigmatisation des Françaises et des Français de confession musulmane. Ça tombe bien, c'est un peu le débat en ce moment. Pour l'abolition des CRA et de l'autogestion des foyers. Nissa, j'ai rien oublié ?
C'est exactement ça.
Mais quand on parle des Français de confession musulmane et de la stigmatisation, parlons-en justement. Mm-hmm. Cette campagne, c'est un peu ça aussi. En partie, pas tout.
Ce que nous, on voit venir à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des élections qui approchent, qu'elles soient municipales, qu'elles soient présidentielles, législatives, peu importe, le sujet qui revient tout le temps, c'est les musulmans. Les musulmans. On a l'impression que le musulman n'est pas français, alors qu'on est des Français à part entière. Notre religion, l'islam, c'est d'ordre privé. Mais eux, on a l'impression qu'en France, il y a leur seul problème, c'est l'islam. Ils n'ont que ça à la bouche. Alors qu'en France, il y a d'autres problématiques à régler, je pense. Il y a d'autres sujets sur lesquels ils pourraient débattre, mais non.
Il y en a un, il y a un candidat quand même qui rencontre un vif succès dans les quartiers populaires, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Exact, et il sera représenté ce 26.
Pourquoi ? Pourquoi il a ce succès dans les quartiers chèques ?
Parce que Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est sur le terrain, qui défend les quartiers. Ça remonte pas d'aujourd'hui. C'est vrai que
même s'il a eu des positions il y a quelques années, on se souvient notamment sur la question du vol, sur plein de choses d'ailleurs concernant les quartiers populaires.
Oui, mais je pense que au fur et à mesure de ces élections et au fur et à mesure des différents mouvements sociaux qu'il y a pu avoir dans l'ensemble de la France, par exemple depuis entre 2017 et 2022, je pense qu'il a aussi pris conscience il faut qu'il change sa politique si demain il veut être président de la République. Il sait très bien qu'il y a une puissance phénoménale dans les banlieues. Il sait très bien que si demain, nous les jeunes, on se mobilise pour aller voter, il sait très bien qu'il peut être président. Donc il est obligé de se ranger du côté des banlieues.
Est-ce que les jeunes, est-ce que les habitants des quartiers populaires vraiment s'y retrouvent dans le discours de Jean-Luc Mélenchon ?
Pour avoir échangé avec certains des quartiers, oui, ils se retrouvent. Après, pas tous. Maintenant, nous, ce qu'on attend, c'est...
Est-ce que vous considérez que l'exécutif, en ce moment, le gouvernement, n'a pas fait assez pour les quartiers populaires ? Ou est-ce que, vous attendiez beaucoup plus d'Emmanuel Macron ?
Oui, comme on a attendu beaucoup plus du PS, qui ont jamais rien fait. Comment aujourd'hui, par exemple, moi je parle de l'inclusion des étrangers, comment on peut expliquer que nos parents qui sont depuis maintenant 50, 60 années en France, qui ont contribué à la vie sociale et économique du pays, et qui n'ont pas de droit de vote ? Vous savez pourquoi ils font ça ? Parce que si jamais demain ils ont le droit de vote, toute cette caste politique, on ne la voit plus.
Vous êtes clair ?
C'est clair. Ouais. C'est clair et net et précis.
Nissa ?
Ah, moi, je suis totalement d'accord avec lui.
Oui.
Alors, pour ça, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire Cheikh.
Vous pensez qu'il y a une prise de conscience dans les quartiers populaires aujourd'hui, disons les choses franchement, dans cette campagne présidentielle, est-ce que les habitants sont vraiment conscients de ce qui se passe durant cette campagne présidentielle?
Oui et non. Déjà, la campagne présidentielle, elle a été énormément étouffée. On a eu l'histoire du Covid, aujourd'hui on a la guerre en Ukraine, on a une guerre qui est au pied de l'Europe. Alors, ils essayent de nous faire croire que Macron soit réélu ou pas. Aujourd'hui, nous, notre travail, il est là, c'est de faire prendre conscience aux jeunes des quartiers que nous devons nous mobiliser. Bien sûr, il est trop tard, mais déjà au moins d'essayer de se mobiliser là pour le 10 avril pour aller voter le candidat qui se rapproche le plus de nous, ce qu'on porte, les banlieues. Vous voyez, si c'est Jean-Luc Mélenchon, ben, ça sera Jean-Luc Mélenchon. Mais tout faire déjà pour faire barrage à Macron. Faut pas se leurrer. Moi, je le dis clairement. Pourquoi? Parce que déjà depuis 2017, la France, c'est un désastre. C'est un désastre. On a connu toutes les contestations sociales. Après, malheureusement pour lui, hein, tout lui est arrivé. C'est vrai que on a eu la crise des gilets jaunes. Ça a commencé déjà en 2017.
Bah, on va dire qu'il a gouverné sans évidemment pouvoir avoir la marge de manœuvre qu'il avait.
Oui,
quoi.
Donc il est tombé au mauvais moment. On lui a pas demandé de créer le parti En Marche en 2016. Hein. Ah, il fallait peut-être attendre. Il est tombé au mauvais moment. Manque de bol, c'est tombé sur lui. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut que les banlieues se mobilisent.
Alors, cette influence que vous voulez mobiliser, cette influence de banlieusard attitude, dont vous, évidemment, vous êtes très clair sur votre position. Le 26 mars, que va-t-il se passer? Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs échanges avec des acteurs publics, associatifs, des solutions que vous voulez résoudre, notamment. Vous parlez de santé, de sécurité, de logement, d'emploi, d'éducation, d'inclusion des étrangers. Le 26 mars, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver face aux candidats. Comment ça va se dérouler et où?
Alors, on ne va pas se retrouver face aux candidats. C'est important de bien préciser
les choses.
Pour nos auditeurs et nos auditrices. On va se retrouver face aux représentants des candidats. Ça veut dire que c'est eux qui incarnent quand même... la personne qui sera là de la France Insoumise, c'est elle qui va incarner Jean-Luc.
Il y aura les porte-paroles, c'est ça?
Exactement. Voilà. Qui ont travaillé, il y en aura... Vous savez, nous, dans la banlieue...
En Marche, qui sera là?
On refuse la parole à personne.
Si on prend la France Insoumise, qui sera représentée par qui?
Nasteo Eden.
Le Parti Socialiste?
Le Parti Socialiste, j'attends juste une confirmation, mais ça devrait être M. Siby.
En Marche d'Emmanuel Macron?
En Marche, ça sera Fatima.
Le Parti Communiste de Fabien Roussel?
Alors, pour l'instant, il me confirme ça encore dans la soirée ou demain.
Le Parti Résistant de Jean Lassalle?
Ça sera Yamna.
Et enfin, les Républicains de Pécresse.
Les Républicains, c'est pareil, j'attends une confirmation dans la soirée qui devrait arriver d'ici demain matin.
Comment va s'articuler, Nissa, cet événement du 26 mars? Vous attendez beaucoup de jeunes?
Il n'y aura pas que des jeunes.
On attend des personnalités publiques, attend des personnalités, des associations. On aura, nous, ce que moi j'ai nommé, c'est des candidats de la banlieue, des élus qui sont très très proches de la banlieue,
sont nombreux,
qui ont grandi en banlieue, qui sont formés en banlieue, qui connaissent très très bien le fonctionnement de la banlieue, pour être dans la contradiction avec les représentants politiques.
Vous espérez combien de personnes?
Si on a une centaine de personnes, c'est pas mal. Maintenant, entre 50 et 80, ça serait plutôt pas mal. Déjà, les associations, ça prend énormément de place.
Alors, ça se passe où? Je sais que c'est à Bagnolet, mais où précisément à Bagnolet? Alors,
ça se passe à Bagnolet.
Ça se passe à Bagnolet, donc dans une salle où ils ont l'habitude de faire des débats politiques là-bas, au 36, je donne l'adresse. Hein,
oui, donnez-nous voilà, tout.
Au 36 rue Pierre-Marie Curie. Donc, c'est une salle qui peut prendre à peu près une centaine de personnes.
À Bagnolet,
voilà.
De quelle heure à quelle heure?
93, c'est vraiment le lieu, la ville idéale pour accueillir ses représentants.
À quelle heure?
Ça commence à 14h.
14h, et c'est ce week-end?
Ce samedi. Voilà.
Ah ben, à ne pas manquer donc, hein, si j'ai bien compris.
Exactement. À ne pas manquer.
À ne pas manquer. Les représentants politiques face à la banlieue, c'est Banlieusard Attitude qui propose cet événement le 26 mars à Bagnolet, à 14h, dans cette fameuse salle. Donc, merci infiniment, Nissa. Bon courage. Cheikh, merci.
Merci.
Je vois que vous lâchez rien.
Merci à vous, merci à Beurre FM de nous avoir accueillis, de nous avoir donné ce temps de parole.
Écoutez, c'est normal, on est en plein dedans.
Il faut.
On est en plein dedans. Bah, bon courage à vous et puis samedi, Bon événement pour samedi.
Merci.
26 mars à 14h. C'est noté. Il y a un enjeu. Franchement, je vous le dis clairement, il y a un enjeu. L'enjeu des quartiers populaires se joue maintenant. Et Banlieusard Attitude a raison de souligner l'importance, effectivement. J'ai bien aimé votre phrase. Faisons en sorte que les quartiers populaires n'en forment qu'un. Une banlieue, un quartier populaire. J'aime bien cette idée. Finalement, une voix. Eh bien, on peut y croire, comme dit Martin Luther King. Hein. On peut rêver et on peut continuer. Bon courage à vous.
Merci.
Bon courage, nous allons retrouver tout de suite les débatteurs, influenceurs, juste après la pause pub. On se retrouve, à tout de suite. Ne bougez pas.
Comment être sûr qu'elle peut être bien au bon endroit ? Est-ce que vous êtes bien au milieu de la banlieue 13 ?
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
19h20, les amis. Quel plaisir de vous retrouver. Le face-à-face, allez, c'est parti.
Les informer, le face-à-face.
Le face-à-face. Les informer, c'est aussi vous, au 01 53 48 3000. Je vous attends. Giovanni vous attend au standard. 01, jingle plutôt.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Le standard est ouvert, vous venez vous commenter l'actualité. Trois sujets que je vous propose, la guerre en Ukraine, le grand retour de la mer américaine en Europe. Il est question de parler de ça aujourd'hui puisque Kiev demande à l'OTAN une aide militaire sans restriction. Nous allons en parler avec justement, aussi également, on va parler de Valérie Pécresse. La droite prépare l'après Pécresse, oui. Et puis François Hollande qui lui se dit, se projette déjà dans la reconstruction du Parti Socialiste. Clochette, il rigole. Il a
je
pas
rigole
droit.
Déjà.
Il n'a pas le droit de rigoler. Non,
on rigole.
0153483000, je voudrais vous entendre.
Double.
Bonjour Mohamed Benjebour, consultant en communication.
Bonjour Adil Farkan, comment ça va ?
Mais je vais très bien, et vous ?
Bah, ça va super. En face plus, il fait encore jour, en plus. Donc,
c'est vrai, ça presque. Fait plaisir. Hein. Jean-Pierre Colombiès, qui rentre d'un séjour, comment ça va ?
Bonsoir, d'un petit séjour à Bruxelles.
C'est oui. Ça, c'était bien ?
Ouais, c'est Bruxelles, j'adore Bruxelles. C'est
ancien commandant de police, joli. Auteur. La pièce est toujours en
non,
cours ?
La pièce ne se joue plus, et elle se termine un petit peu comme elle avait commencé, difficilement,
ouais,
dans
mais,
une période
tout
où
monde
les,
galère.
Les gens ne retournent plus.
Je me suis renseigné pour vous, tout le monde galère.
On est bien d'accord, je confirme.
Vous voulez bien qu'on accueille Auria de Lyon ?
Ouais, on a
ça devient une fidèle auditrice, Auria.
On la salue d'abord. Et puis...
Ah ouais, la classe, Auria. Bonsoir, Auria.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous les auditeurs.
Ah, vous devenez... Oui. Attention, vous êtes piqué par les informés, vous, ça y est.
Ah bah écoutez, vous avez des excellents départs.
Vous pouvez plus vous en passer, Auria.
Ah bah ouais, ça y est, c'est viral.
C'est viral, c'est une bonne drogue, ça va, ça... Vous assumez ?
Franchement, je vous écoute, je vous assume complètement, je prends plaisir à vous écouter.
Ça nous fait plaisir, vous le savez ça ? Ça nous fait plaisir.
Ouais.
Merci pour votre fidélité. On vous écoute, Auria.
Eh bien, écoutez, vous venez juste de lancer le débat en ce qui concerne la Madame Pécresse. Effectivement, il faudrait vraiment qu'elle se renouvelle, même qu'elle n'existe plus. Pour moi, en fait, elle n'a pas lieu d'être. C'est pas légitime, le poste qu'elle...
Aïe, 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 aïe.
La légitimité...
Fort, oui, hein.
Ah oui, écoutez, là, c'est après le travail, je me lâche. Non, mais en toute sincérité, on est toujours en train de parler de la droite, de la gauche, du centre, du pas-centre. Pourquoi aurait-on pas un président qui représente toute la population, il dit bien toute la population, aussi bien... Tout le monde, parce que j'ai pas de mots pour décrire quand on parle des étrangers en France,
oui.
Surtout à Monsieur Zemmour. Franchement, ça fait honte. Et quand je vois cette division du peuple qu'on veut instaurer à tout prix, le bien, le méchant, en fait, c'est toujours une histoire de, comme je vous disais, hein, le pouvoir est aveugle.
Le pouvoir est aveugle, ça veut dire quoi ça ? Jean-Pierre Colombiès veut vous interpeller. Jean-Pierre veut vous interpeller.
Je veux l'interpeller.
Il ne faut pas dire ça à un ancien policier. Non,
c'est vrai, un ancien policier qui interpelle. C'est il est bon, Adil Farkan. Hein.
Tu mériterais une clochette.
Toi. Il l'a fait, vous n'avez pas entendu la clochette ?
Non, d'abord, je salue l'auditrice. Auria, enchantée, bonsoir. Ce qu'elle vient de décrire, c'était pas un peu ce que voulait Macron ? C'est-à-dire c'est faire la synthèse de tous les talents, de gauche comme de droite. Donc c'est...
Il y va fort, lui aussi.
Elle a lancé le débat, donc on peut effectivement...
En même temps, c'est petit, excusez-moi de vous interrompre. On dit Macron, mais ça aurait pu être une autre personne. il se sert effectivement, c'est comme dans une société, on se sert toujours des idées pour avancer.
C'est vrai.
Oui, mais à condition de réunir les vrais talents. Je me permets simplement de citer un poète que j'aime bien, qui s'appelle René Char, qui disait que on reconnaît un grand chef, un vrai chef, dans sa capacité à créer la synthèse de toutes les intelligences qui l'environnent et de les mettre à profit. Le problème qu'on a avec les hommes politiques et les femmes politiques de notre temps, c'est que malheureusement, ils s'entourent de gens plutôt médiocres. Et c'est un peu ça qu'on peut reprocher, pas simplement à Macron, du reste, hein, mais à tous.
Merci Auria pour votre fidélité, merci pour vos commentaires et au plaisir, restez fidèles. Jean-Pierre, tiens, gardons le sujet de Valérie Pécresse parce qu'on est en plein dedans. Valérie Pécresse qui commence à se faire lâcher, ça y est, hein, les poids lourds, les cadres ont décidé de prendre les choses en main, les reins en main, et que sont en train, vous savez quoi, d'ores et déjà de préparer l'après Pécresse. Bon.
J'ai envie
vous
de dire, ça a déjà, non, mais ça a déjà commencé avant. Enfin, bon, je veux pas. Tu me donnes la parole en premier, merci. La division au sein des LR, elle a commencé déjà, à l'élection de François Hollande, lorsque Sarkozy, au discours de la Concorde, où j'étais pour écouter ce qu'il allait dire, a pioché dans les idées et dans la philosophie du Front National pour radicaliser son discours et aller piocher justement dans son électorat de droite et de droite radicale. N'oublions pas que c'est Sarkozy à l'époque qui avait lancé le programme de l'immigration et de l'identité nationale. Souvenons-nous des dégâts que ça avait fait au sein de l'opinion publique. Et cette fracture, elle ne s'est jamais refermée, à tel point que justement, de ce moment-là, deux courants se sont dessinés au sein des LR. Un courant très radical, porté à l'époque par Wauquiez et d'autres, hein, et un courant plus modéré, plus républicain, on va dire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Bertrand et Pécresse, justement, avaient quitté ensuite le parti. Et on retrouve ces gens qui n'étaient plus membres des LR au premier rang de l'estrade, ce qui est assez surprenant.
Sauf que là, c'est tout le monde, hein, c'est Wauquiez, Ciotti, Bertrand, bref, tous les poids lourds, les ténors.
C'est l'odeur de la défaite, Adil.
Ouais.
Ça fait peur.
Ça fait peur.
C'est l'odeur de tout le monde va chercher à se recaser.
Bon, on peut parler de turbulences là, non?
Bah, oui, mais les turbulences.
Fortes turbulences d'ailleurs.
Adil, elles ont commencé avec Macron. Mmh. L'état-major, les piliers du macronisme, c'est quand même Édouard Philippe, LR. Absolument. Castex, ancien pilier qui était rattaché, je crois, de mémoire au ministère même de l'Intérieur, de la Santé, je ne sais plus.
Il a été même secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Chirac.
Darmanin, pour pas Bachelot, bon, mais Bachelot qui est un peu ministre par hasard, on va dire, ministre opportuniste. Je lui en veux un peu à cette dame, hein, et pas qu'un peu du reste, hein, vu ce qui se passe dans les salles de spectacle. Et tant d'autres qui ont erré, qui ont été récupérés.
Oui, il a droit à une clochette,
parce Macron. Que c'est... Donc la division, elle a commencé. Elle va s'accentuer après les élections présidentielles. Et là, il n'y aura pas deux choix. Il y en aura même trois. Il y aura ceux qui choisiront le camp de la radicalité vers Zemmour ou vers Le Pen. Ceux qui rejoindront le camp macroniste, ils ont déjà fait savoir qu'ils le feraient. Nous avons déjà Estrosi, nous avons déjà Muselier qui soutiennent Macron. Et ceux qui, peut-être, iront chercher la voix d'Édouard Philippe, qui tourneront le regard vers Le Havre. Et donc, ça fait trois voies possibles, mais on assistera. Quoi qu'il
Quelle analyse de Jean-Pierre Colombiès
DLR.
Quelle analyse? Alors, Mohamed Benjebourg, vous dites quoi?
Les signes de la défaite avaient commencé dès la victoire, j'ai envie de dire, de la primaire, puisqu'elle a été obligée de donner des gages à ses 40%. C'est très sérieux.
Même si, je pensais que c'était une vanne.
Non, c'est vrai, puisque dès le premier soir, elle a été obligée de renier et de se renier, puisque elle était partie, comme le rappelait Philippe, de LR à cause de la radicalisation. De la radicalisation, Philippe.
Il m'a appelé Philippe.
De la radicalisation, parce qu'il va parler d'Edouard Philippe peut-être. Mais de la radicalisation de LR, elle était partie pour ça, et elle se retrouve désignée candidate à la primaire de la droite et en étant obligée de donner des gages à Éric Ciotti, qui est quand même le représentant encore plus que Wauquiez de cette droite très radicale qui est prête à faire des concessions avec le Front National.
Des erreurs rhétoriques Jean-Pierre Colombiès. Des erreurs rhétoriques colossales quand elle est allée piocher.
Alors messieurs, je vous pose une question. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'hémorragie? Est-ce que c'est...
Il y en aura une.
Non, il y en aura une. C'est pas tout de suite.
Le 24 avril, il y en aura une.
Ah, le 24 avril, vous deux.
Ouais,
il y aura une hémorragie.
Ouais,
mais elle a commencé maintenant. Mais elle devrait même plus y aller, là. C'est un peu comme Hidalgo, on va en parler. Mais c'est quand même...
Elle devrait plus y aller? C'est chose que vous dites quand même.
À partir du moment où 40% des électeurs. Mais c'est dommage d'ailleurs parce que.
Mais comment ça? Ça y est, on est dans la lancée. Elle ne peut pas arrêter en cours de route.
Je peux vous donner un exemple.
Oui.
Je suis scotché et étonné de voir qu'à chaque fois que les gens du Front National ou de chez Éric Zemmour lui demandent si elle va appeler à voter pour Macron au lendemain du premier tour si elle perd, elle ne.
qu'elle n'ose pas répondre à ça. Je ne comprends pas. Elle devrait leur répondre, mais vous pensez que je vais aller appeler à voter pour Front National ou pour Éric Zemmour? Elle devrait dire, je voterai pour le candidat républicain. Mais de ne pas vouloir, au prétexte de ne pas vouloir donner, prêter le flanc à la critique sur le fait qu'elle est prête à perdre ou qu'elle est proche de Macron, ils sont dans d'une telle sidération face à cette accusation de connivence avec Macron, qu'elle ose même pas dire qu'évidemment, au second tour, les gens qu'elle représente au sein de la droite républicaine voteront pour Emmanuel Macron.
Il y a quand même un problème. Ouais. Il y a quand même
c'est problème. Quoi ce problème?
Il y a un problème quand même qui est quand même à mes yeux que comme vous le savez, je vous tutoie, Monsieur Hadi. Là, je vous tutoie.
Tutoyez-moi, moi je vous vois, mais tutoyez-moi. Moi, je suis en direct, je joue mon rôle de journaliste.
Donc, moi, je suis toujours sidéré par ce raccourci qui consiste à dire qu'il faut voter pour le candidat républicain. Mmh. Que je sache. Que le veuille ou pas, que ça fasse plaisir ou pas, qu'on soit.
Marine Le Pen, ça y est, elle est républicaine.
Elle est républicaine. Enfin, je veux dire, si le Front National.
La question se pose, vous savez pourquoi? Mais là, il a peut-être pas tort. Vous savez, moi, je vais donner un peu mon avis.
Ce serait pas là.
Non, mais attendez. Moi, j'entends des voix. Non, mais c'est pas ça. J'entends des voix, y compris dans les quartiers populaires, qui disent, mais finalement, Marine Le Pen, elle nous parle. C'est là où je commence à me dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'émerger? 0153483000, je voudrais vous entendre, chers amis auditeurs.
Monsieur Farkan.
Où que vous soyez, je veux vous entendre.
Monsieur 0153483000. D'abord, mea culpa. Jean-Pierre a tout à fait raison sur le fait que c'est une candidate républicaine, puisqu'elle a été élue.
Et elle a l'air de bien passer là.
Et que son parti n'est pas interdit, etc. Il a totalement raison, c'est vrai. En revanche, sur le fait que. Qu'on ait honte de dire qu'on va voter par défaut parce qu'on va de toute façon.
Non, mais ils ont plus honte, les gens des quartiers, les habitants des quartiers populaires.
Les gens des quartiers
n'ont plus honte de se dire Marine Le Pen, elle nous parle.
Si je puis me permettre, ce que les gens disent effectivement, est-ce qu'on entend beaucoup de
plus en plus. Je ne suis pas en train d'installer le débat sur Marine Le Pen,
non, mais
attention.
Je ne pense pas que les gens des quartiers voteront en majorité Marine Le Pen. En revanche, ils se disent qu'ils en ont marre de voter par défaut. Et ils ne veulent pas faire gagner Macron.
Ils ont raison.
Car ils ont été très déçus d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'il y en a marre de voter par défaut. Mais je sais plus qui disait que la démocratie est le pire des systèmes en attendant de trouver un meilleur. Oui.
Ça pouvait être Churchill.
Possible. Ils sont fatigués de devoir choisir par défaut. Les électeurs sont fatigués de devoir choisir par défaut. Le problème aussi,
j'interpelle
les quartiers.
C'est Emmanuel Macron. Se retrouve, enfin plutôt l'inverse, Jean-Luc Mélenchon se retrouve face à Emmanuel Macron. La question se pose, messieurs. Le scénario est probable.
Mais
il y avait les quartiers là. Vous avez entendu tout à l'heure notre invité?
Non. Enfin si, mais on discutait, donc c'était un petit peu compliqué.
On préparait l'émission, monsieur Farkan.
Oui, acceptant, on était
compliqués. Oula, on est à la bourre, j'ai même pas vu l'heure passer. Moi, réalisateur, je vais le taper. Normalement, c'est à lui de me prévenir. 19h30, c'est le quoi de neuf? Il faut appeler notre Pascal Boniface international. Je me suis loupé et je m'en excuse pour Pascal Boniface. Absolument. Je vous laisse finir, Mohamed Benjebourg.
Non, je disais simplement que les quartiers ont marre de voter par défaut. Je ne suis pas certain qu'il y ait un sursaut pour Jean-Luc Mélenchon des quartiers au deuxième tour, si jamais il se retrouve au deuxième tour. Je suis pas certain de ça. Je pense que c'est une construction des médias avec ce concept d'islamo-gauchisme et qu'il n'y a pas un engouement des quartiers pour Jean-Luc Mélenchon. Il a certes un discours.
Vous avez
un
raison, c'est vrai, faut pas parler d'engouement.
Mais faut pas déconner.
Ouais, Jean-Pierre Colombiès, vous dites quoi?
Non, mais j'étais parti sur une idée, vous m'avez coupé.
Ouais. Vous pouvez me tutoyer, moi ça me dérange
pas
du tout.
Non, il y a pas de souci, mais j'en reviens toujours à ce paradigme là, ce choix binaire qui consiste à déclassifier le Front National pour favoriser le candidat qui a la chance d'être au deuxième tour contre eux. Je rappelle quand même que ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, je suis désolé, pourtant je suis un ancien policier, je pourrais ne pas le dire ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Je veux dire, la répression qui a eu lieu contre les manifestations des Gilets jaunes, ça aurait été un gouvernement dit de droite populaire, disons le Front National qui l'aurait fait. On aurait dit quoi?
Exactement. On continue d'en parler, 19h33, avec beaucoup de retard, et je m'en excuse. Pascal Boniface et le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Bonsoir Pascal Boniface, comment ça va? Bonsoir, le patron de l'Eriste. On a pris du retard, vraiment, sur le conducteur. A-t-on humilié la Russie? La réponse, et la question se pose en tout cas. Oui, mais des excuses pour faire la guerre. Oui. Je vous écoute, mon cher Pascal Boniface.
Alors, on l'entend beaucoup, effectivement, qu'on a humilié la Russie au sortir de la guerre froide et que c'est la raison qui explique pourquoi elle fait la guerre à l'Ukraine aujourd'hui. Et donc, il faut distinguer parce que la vérité, elle est complexe, mais qu'on avait en même temps rien n'excuse de retour à la guerre. Alors oui, les Occidentaux n'ont pas très bien traité les Russes et il n'est pas faux de dire que des promesses ont été faites à Gorbatchev lors de la réunification allemande, notamment de ne pas élargir l'OTAN, mais c'est des promesses verbales, pas un traité écrit. Mais ces promesses ont été faites, et par la suite, les Occidentaux ont élargi l'OTAN, ce qui a été vécu comme une trahison par la Russie. Mais il faut voir aussi que ceux qui ont trahi les Russes, ce sont aussi les Russes eux-mêmes, parce que c'est Boris Yeltsin qui a trahi ses compatriotes en laissant les oligarques piller le pays et se constituer des fortunes qui a laissé sur le carreau de nombreux Russes. Et ça, ce sont pas les Occidentaux qui en sont responsables, même si, bien sûr, ils ont donné des conseils de privatisation. Et puis, les Américains ont exercé beaucoup d'influence. En 93-94, l'ancien ambassadeur russe en France, Alexandre Orlov, disait que au ministère, il recevait des instructions du département d'État. Donc, on comprend l'humiliation. Donc, oui, on a fait des erreurs avec la Russie. Et il n'y a pas que Poutine qui dit cela. Gorbatchev, qui ne passe pas pour un anti-occidental, qui a fait toutes ces politiques de rapprochement. Gorbatchev, et j'ai longtemps participé au forum qu'il organisait, et j'ai entendu Gorbatchev moi-même dire exactement la même chose, qu'il avait été trahi par les Occidentaux. Donc tout ceci n'est pas faux, mais cela n'excuse pas le recours à la guerre. Cela n'excuse en rien. Les habitants de Mariupol ne sont pas responsables des erreurs occidentales qui ont pu être commises à l'égard de la Russie. Donc effectivement, on n'a pas fait le nécessaire, les Américains ont préféré gagner la guerre froide que bâtir un ordre mondial nouveau qu'il disait vouloir construire par ailleurs, mais ce n'est pas pour autant une excuse pour que Poutine puisse avoir lancé la guerre et faire souffrir ainsi les civils ukrainiens.
Vous avez complètement raison. Bravo pour ce billet d'humeur. À jeudi prochain sans faute, mon cher Pascal Boniface.
Comme toujours, avec plaisir, Adil.
Avec plaisir partagé. Merci, mon cher Pascal, le patron de l'ERIS, patron Pascal Boniface. 19h36, on marque la pause pub et on se retrouve tout de suite après avec les auditeurs 01 53 48 3000. Karim qui nous attend de Pantin et tous les autres, Jean-Pierre Colombiès et Mohamed Benjibour. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h42 précisément, c'est parti.
Mais un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul.
Un face-à-face tout seul ?
Ben moi là et vous savez.
Les informés. Le face-à-face.
Eh oui, c'est ça les informés. Vous le savez, avec Jean-Pierre Colombiès, avec Mohamed Benjebourg, mais surtout avec les auditeurs 0153 48 3000. Direction Pantin, où nous allons accueillir Karim. Bonsoir Karim.
Bonsoir Adil, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Alors je vous appelle pour vous dire I have a dream today.
Oui. Oui.
Parce que j'ai entendu et je constate qu'à droite, ça ne va plus du tout.
Oui.
Et je suis extrêmement content de cette nouvelle. Et je vais vous dire pourquoi.
Pourquoi ?
Je fais un rêve aujourd'hui. J'espère, moi, que enfin, en France, on va finir par comprendre que l'islamophobie ne paye plus. Parce qu'il y a des tas de gens, ces 10 dernières années, qui se sont fait des noms, non pas pour leurs compétences économiques ou politiques ou de stratégie internationale, uniquement sur l'islamophobie. On a vu des vedettes de l'islamophobie arpenter les plateaux de télévision, faire l'opinion, être reçues comme des stars de télé. Et moi, je pense que Mme Pécresse en a fait les frais. Et j'espère que ça servira de leçon, parce que moi, je suis convaincu, contrairement à beaucoup de gens, qu'il y a un réveil dans les quartiers populaires. Les gens, vous savez, il y a une phrase qui dit « Exister, c'est exister politiquement ».
Jean-Pierre n'est pas d'accord avec vous. Il dit que c'est marrant. Jean-Pierre, on l'écoute.
Bonsoir.
Attendez, oui, je peux finir, s'il vous plaît, monsieur ?
Oui, allez-y.
Voilà, vous serez gentil. Et donc, je voulais dire que moi, je pense que Pécresse, moi, je l'ai connu, Pécresse, en 2013-2014, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas du tout. Elle n'était pas comme ça. Et je peux vous dire qu'elle a complètement changé, parce qu'elle a cru, hein, en regardant CNews et compagnie, que plus on insulte les musulmans et plus on monte dans les suffrages. Eh ben, ça va servir de leçon à tous ceux qui vont venir, parce que pour moi, la République, elle va de la gauche au centre droit. Après, c'est plus la République.
Merci pour cette intervention. Mon cher Karim, merci. Sauf Jean-Pierre,
que, oui, sauf que si je peux me permettre, je ne sais pas si l'auditeur est toujours en ligne, mais sauf
mais
que.
Mais vous écoute.
Sauf que le problème, c'est Pécresse baisse, certes, mais au profit de Zemmour et du Rassemblement National. Donc, c'est pas tout à fait vrai ce qui vient d'être dit, puisque justement, ça a nourri quand même cette cette islamophobie naissante là, qui est là. Ça bénéficie aux discours les plus radicaux, justement.
Et Mohamed Benjibour, je voudrais qu'on parle de l'ancien locataire de l'Élysée. Vous savez de qui je parle ?
Non.
Non. François Hollande, dit-il avec beaucoup de...
François Hollande,
de flagornerie.
Il a une actualité en ce moment ?
Eh ben oui, figurez-vous, parce qu'il dit... L'actualité dit, Je prends date pour reconstruire le PS après l'avoir. Enfin, moi, pour moi, je considère. Bon, je vous écoute, Mohamed Benjimou.
Adil, on n'est pas le 1er avril.
Oh là, il s'énerve.
On n'est pas le 1er avril. Non, mais quand j'ai entendu
ça. Oh là, il s'énerve. Matin, non, 1er avril. Non, c'est la semaine prochaine.
Non, mais c'est la semaine prochaine, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, quand j'ai entendu ce matin que François Hollande allait reconstruire ce qu'il avait déjà détruit, je me suis demandé si c'était pas le boucher qui, après avoir égorgé le mouton, revenait pour recoller la tête.
Pourquoi égorger
le
mouton?
On va prendre une métaphore. On va prendre une métaphore.
Non, alors qu'on approche la période du mois de Ramadan, il nous parle de mouton.
Non, mais soyons sérieux. Il était démanitisé. C'est la kermesse ou quoi? Il était démanitisé au point de même pas pouvoir se représenter.
Ouais.
Hein? Et maintenant, il va
ça
nous expliquer.
Ça taille à mort, hein.
Mais c'est la vérité. Il a été le premier à commencer à détruire.
En tout cas, il se projette.
Il peut se projeter de l'autre côté de la rambarde parce que ça nous arrangerait tous. Non, mais vraiment, c'est honteux, franchement. C'est honteux.
Est-ce que vous y croyez encore, vous auditeurs, partout en France? Le PS, est-ce que ça vous parle encore? Franchement, j'aimerais vous entendre. Est-ce que le PS, ça vous parle? Est-ce que ça continue de vous parler? Jean-Pierre Colombien, 01 53 48 3000.
Comment contredire ou contrarier ce qui vient d'être dit? C'est totalement vrai. On oublie quand même que quand François Hollande gagne les élections présidentielles, c'est vrai que ça commence à dater, mais il était à la tête d'un pays qui était rose, complètement rose. Les mairies avaient basculé à gauche, les conseils régionaux avaient basculé à gauche, l'Assemblée nationale, le Sénat, j'en passe, tout était à rose. Cinq ans après, plus
rien.
Et je rappelle quand même, pour ceux qui ont la mémoire encore plus courte, et ce serait bien dommage, que c'est quand même lui qui a porté sur les fonts baptismaux un certain Emmanuel Macron, qui lui-même se disait, n'étant pas un homme de gauche, il en a fait un secrétaire général, il en a fait un ministre du budget. On sait à quel point ce ministère est sensible et à quel point ça lui a servi pour se créer son réseau d'influence. C'est lui qui a trahi donc François Hollande, qui s'en est même pas rendu compte, ce qui est un peu navrant quand même pour quelqu'un
pour un homme politique,
chef de l'État, qui est supposé avoir tous les services de renseignement à son service. Mais il a un peu oublié. Et aujourd'hui, il veut quoi? Se présenter comme le rédempteur? Adil, n'est pas le Che Guevara qui veut.
Et d'ailleurs Jean-Pierre aurait pu ajouter à la nomination de Emmanuel Macron celle de Manuel Valls.
Oui,
grand homme de gauche devant l'éternel, qui a eu des phrases que Sarkozy a même pas osé.
Valls qui avait biblé.
Mais j'attends les auditeurs la famille au 01 53 48 3000.
Et qui vont revenir lui aussi.
Est-ce que la gauche vous parle encore? Plutôt le PS. Est-ce que le Parti socialiste vous considérez qu'il existe encore? Est-ce que vous portez de l'espoir dans ce parti? 01 53 48 3000. Mohamed Bejebourg, je vous ai interrompu. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, mais vous avez posé la question aux auditeurs. Moi, malheureusement, je crains qu'il faille réinventer autre chose. Je trouve que le spectacle donné par Anne Hidalgo est terrible et qu'elle aurait mieux fait s'occuper des Parisiens et des rues de Paris et de la relation à la banlieue, à la périphérie proche. S'occuper des Jeux Olympiques 2024, et ça lui aurait peut-être donné une stature présidentielle pour 2027. Mais là, c'était évidemment trop tôt et on a l'impression d'être face à des hommes politiques qui n'ont soit pas de conseillers, soit des cireurs de pompe qui ne leur disent pas la vérité, ne leur donnent pas, ou alors ils sont totalement déconnectés de la réalité.
Ils le sont.
Donc François Hollande, out.
Non, mais ça a commencé aussi avec la nomination de quelqu'un que je connais pas personnellement, mais qui me navre au niveau public, c'est Olivier Faure, secrétaire général du Parti Socialiste, qui est d'une absence sidérale dans le cadre des débats actuels.
Il n'existe pas.
Il n'existe absolument pas. On devrait l'entendre au moins une fois par jour, ce monsieur.
Non, mais il a parlé aujourd'hui.
Ah, c'est bien.
Il a demandé à Hollande et aux éléphants de ne pas s'occuper de reconstruire le PS parce que lui-même le reconstruisait depuis 2 ans.
Parce qu'on n'est pas rendu compte. Hein.
C'est énorme.
Mais il le faisait peut-être dans la discrétion.
Non, mais faut pas être méchant avec Olivier Faure. Je pense qu'il a au moins autant de charisme que Jean-Marc Ayrault.
il la mérite.
La guerre en Ukraine. C'est le dernier sujet avant de rendre l'antenne. Kiev qui demande plus encore et encore une aide militaire sans restriction à l'OTAN. Zelensky qui sans relâche vraiment parle et dénonce également des conditions inégales de combat. La guerre en Ukraine, c'est aussi le grand retour de l'armée américaine en Europe.
Pas sûr.
Le seuil symbolique quand même des 100 000 soldats a été franchi ces dernières semaines. Jean-Pierre Colombiès, qu'est-ce qui n'est pas sûr ?
Il n'est pas sûr que c'est une réalité concrète. Je trouve que vraiment, dans cette crise, on joue beaucoup avec le feu. Certains avec des discours de va-t'en-guerre. D'ailleurs, des discours de va-t'en-guerre pour les autres. Hein, ceux qui, en général, parlent le plus de guerre sont ceux qui sont certains de ne pas y aller. Donc, je dis toujours, méfions-nous des discours très velléitaires.
Vous parlez de Bernard Henri Lévy,
vous aussi, vous y avez pensé?
Ouais.
On a tous pensé à ça. Mais c'est pas le seul, hein. Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. Francis Huster, Glucksmann, et j'en passe des meilleurs, hein, qui n'ont de cesse que d'appeler à la guerre. OK, mais c'est pas eux qui la font. Cette guerre, elle est complexe. Parce que beaucoup de ceux qui en parlent ne connaissent pas la géopolitique. Ne savent pas de quoi on parle. Tout le monde a oublié la guerre dans le Donbass qui dure depuis 8 ans et personne ne s'interroge sur le comportement de l'armée ukrainienne justement dans cette région. Personne, ça n'intéresse personne a priori. Il n'y a pas eu de guerre jusque-là, c'est seulement la guerre, l'agression russe contre l'Ukraine. Maintenant, méfions-nous de beaucoup de choses et notamment de l'opinion publique russe. Tout le monde dit « Ah oui, mais beaucoup de Russes sont contre Poutine ». Moi, je rappelle juste un fait historique. 1941, Hitler attaque la Russie. À ce moment-là, Staline est vraiment en difficulté dans son pays et il n'est pas certain qu'il ait gardé le pouvoir beaucoup plus longtemps. Parce qu'il y avait beaucoup de mécontentement, notamment en Ukraine, à cause des famines des années 30, 35-37, en Géorgie, partout dans les États où la répression stalinienne avait été féroce. Hitler a commis l'erreur de sortir la notice 42, qui décrétait que tout Slave était un sous-homme et donc il n'y avait pas de prisonniers à faire. Et qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction? Eh bien, tout simplement une montée du nationalisme pro-Staline et anti-occidental jamais connue. Et c'est comme ça que la Russie n'a pas baissé les bras et a pu contre-attaquer. Je veux en venir où? Je veux en venir qu'à force d'attaquer Staline et par voie de conséquence le peuple russe, on va tout simplement radicaliser l'opinion publique russe contre l'Occident. Et après, sur les moulinets des représentants de l'OTAN, moi je m'inquiète, hein, parce que dès que les Américains mettent les mains quelque part, vous m'accorderez les uns les autres que c'est à risque. Souvenons-nous
à risque. Bon.
Des mensonges des Américains pour la guerre en Irak. Hein.
Alors, Mohamed Benjebourg, cette guerre, avec toutes les questions que je viens de soulever.
Elle démontre simplement l'arrivée le retour en puissance, comme vous le disiez, des militaires. Bon, je sais pas si c'est une réalité concrète. En tout cas, l'arrivée et l'influence de Biden, ses déclarations aujourd'hui, démontre à mon sens une faiblesse de l'Europe.
Oui.
Je trouve que c'est la conséquence du fait qu'on ait des intérêts divergents entre les différents pays de l'Europe et que l'Europe est pour l'instant une réalité économique et loin d'être une réalité politique. Et de toute façon, tout le monde est un peu tétanisé à l'idée que Vladimir Poutine fasse le geste de trop. On est obligé de garder un lien et des canaux de communication avec lui. Et l'OTAN, maintenant, qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps, au final, trouve une opportunité de redorer, pas son blason, mais de revenir un peu sur la scène internationale, d'avoir une voix, etc. Écoutez, voyons, mais en tout cas, ça montre que la réalité... deux choses. D'abord, que le monde global dans lequel on vit aujourd'hui, on est tous interconnectés. Hein, un petit virus en Chine peut arrêter la planète entière pendant plusieurs mois. Une invasion ou une attaque de la Russie à l'Ukraine va avoir aussi des conséquences cataclysmiques sur le plan économique, ça c'est sûr. Et puis évidemment, il y a les morts qu'on doit déplorer. Mais plus on isolera, et c'est ce que les grandes puissances occidentales prévoient de faire, plus on isolera Vladimir Poutine et les Russes, parce qu'on ne parle jamais des Russes qui n'y sont pour rien. Plus la bête sera blessée et donc plus elle sera dangereuse et imprévisible.
Merci, oui, messieurs. Voilà. Très passionnant ce soir. Comme tous les soirs.
C'est déjà terminé? Non.
Si.
Ah, quel dommage.
Quel dommage, vous avez raison.
On aurait pu parler des bons et des mauvais dictateurs, de ceux qui sont fréquentables et de ceux qui le sont un peu moins. Poutine étant bien évidemment celui qu'on a classifié désormais de manière irrémédiable comme le très très méchant dictateur, ça ne nous empêche pas d'envoyer des usines en Chine, qui, je le rappelle, déportent et massacrent les Ouïghours. D'avoir des relations très amicales avec l'Arabie Saoudite qui massacre les rebelles houthis au Yémen, qu'on a fermé les yeux sur l'écrasement du Karabakh par l'armée turque, puis j'en passe et des meilleurs.
C'est le coup de gueule de Jean-Pierre Colombier ce soir. Vous aviez un coup de cœur, vous? Voilà, oui.
Moi, j'avais un coup de cœur pour un spectacle au mois de juin à la scène musicale, Le Cœur à Mouage, qui est un cœur d'enfants palestiniens. Une centaine d'enfants qui vont venir de Palestine et qui vont venir chanter avec des gamins des Hauts-de-Seine. Dans le cadre d'un programme d'Insula Orchestra avec lequel je travaille et qui est un orchestre qui invite. C'est au mois de juin prochain et on va faire gagner des places sur Beurre FM. Et pour les auditeurs qui sont intéressés d'aller voir, c'est 10 euros la place. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et ces gamins, il faut le savoir, ces gamins n'iront pas à l'hôtel pendant leur séjour, ils iront dans des familles françaises.
Ça, c'est bien. Voilà. Effectivement, plonger dans les familles. Merci à Jean-Pierre Colombiès, ex-commando de police, mais surtout auteur aujourd'hui, il se consacre à ça. Merci à vous, à très bientôt. Merci à Mohamed Benjibour, consultant en communication, merci. À la réalisation, c'était Giovanni. Et tous les auditeurs qui nous ont joints, au 01 53 48 3000. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed?
Non, je voulais juste donner la date, le 10 juin à 20h30.
Vous m'avez interrompu là?
Ouais, je suis désolé, normalement on parle pas après le roi et on parle pas après le président.
Mais il s'y croit où, lui?
Non, mais le 10 juin c'est important, c'est pour les enfants.
Mais on aura l'occasion de revenir.
Bon, d'accord,
pardon. Mais oui, on reviendra.
Désolé.
Vous inquiétez pas, mon cher Mohamed, on est là.
On aurait pu parler de la Palestine aussi.
Vous reviendrez.
Ouais.
Mais oui, à demain, avec autant de plaisir. Ce soir, pas de Time Sport exceptionnellement. Donc, Bilal Nedman vous donne rendez-vous demain. Quant à moi, je vous donne demain rendez-vous. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Oh, ce débat est cornélien. Quel carrefour. Quel conflit de devoirs.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.